Et le journal est présenté par Claire Flechel. Bonjour Claire.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À l'approche de la pause estivale, les formations politiques se mettent en ordre de bataille, cap sur les municipales. Une grande manifestation est prévue cet après-midi à Belfort. Elle doit rassembler syndicats et élus de tous partis confondus en soutien aux 1050 employés de General Electric dont l'emploi est menacé dans le territoire. Hier déjà, les salariés ont fait entendre leur voix.
Je ne cherche pas la guerre. Donald Trump fait marche arrière après le coup de chaud d'hier. L'armée américaine prête à frapper l'Iran.
Les tensions entre les deux faucons inquiètent plusieurs pays et certaines puissances pourraient œuvrer à faire baisser la pression. C'est ce que nous dira Clément Terme, chercheur pour le Bureau Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques de Londres. Nous irons enfin en Mauritanie où les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi, élection présidentielle dans un pays où la liberté de la presse recule. Caroline Brouet, qu'est-ce qui est prévu en deuxième partie?
Eh bien, après le rapport annuel de l'ONU publié mercredi sur le nombre d'exils forcés qui n'a jamais été aussi grand dans le monde. Question que nous poserons dans cette deuxième heure des matins du samedi. Est-ce que nous sommes au bord d'une nouvelle crise migratoire? Le président d'honneur de l'ONG SOS Méditerranée sera avec nous, Francis Valla.
C'est bientôt la pause estivale pour les responsables politiques. C'est donc l'heure ce week-end du difficile exercice bilan et perspectives en vue des élections municipales. Première retrouvaille d'un côté pour Europe Écologie Les Verts qui voit la vie en rose depuis les européennes. En revanche, pour les Républicains, le Parti Socialiste et la France Insoumise, l'avenir s'annonce beaucoup plus sombre. Stéphane Robert.
Comment redevenir la principale force politique à droite et incarner une alternative à Emmanuel Macron? C'est la question qui sous-tendait la première convention thématique organisée par le président du Sénat, Gérard Larcher, hier à Valenciennes. Il avait convié pour l'occasion le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, alors que celui-ci n'est plus membre du parti Les Républicains depuis 2017. C'est dire le désarroi dans lequel se retrouve la droite depuis le mauvais résultat des européennes, 8,5%. La France Insoumise va s'interroger de la même manière à l'occasion d'une assemblée représentative aujourd'hui et demain à Paris. Comment expliquer l'effondrement électoral? Comment les Insoumis sont-ils passés de 19% à la présidentielle à 6% aux européennes? Et surtout, est-il possible de rebondir au municipal l'année prochaine? À toutes ces questions, la tonalité du discours de Jean-Luc Mélenchon dimanche après-midi apportera un début de réponse, on le dit, très affecté depuis plusieurs semaines. Les socialistes sont un peu moins pessimistes. Ils réunissent ce samedi leur conseil national et malgré le score de 6% aux européennes, ils espèrent bien sauver les meubles aux municipales parce qu'ils ont conservé une forte implantation locale et parce que le vote, veut-on croire au PS, se fera surtout sur le bilan des maires sortants. Les Verts qui tiennent ce week-end leur conseil fédéral affichent quant à eux un optimisme éclatant. « Nous voulons conquérir de grandes villes », disait Yannick Jadot début juin, Nantes, Rennes, Toulouse et même Paris. Attention quand même à l'excès d'ambition, les bons scores des écologistes aux européennes ne se sont jusqu'ici jamais reproduits dans les scrutins suivants.
Stéphane Robert, la reconstruction de la droite et des Républicains, justement, à laquelle va s'atteler Christian Jacob, l'ancien ministre délégué à la famille, président du groupe LR à l'Assemblée, annonce sa candidature dans un entretien au Figaro pour succéder à Laurent Wauquiez. Le scrutin interne est prévu les 12 et 19 octobre prochains.
Toutes les 15 secondes, une femme ou une fille subit une mutilation sexuelle dans le monde. Le gouvernement français lance donc, et c'est une première, un plan national d'action contre l'excision et toute autre mutilation sexuelle féminine. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes l'a présenté hier.
En France, 60 000 femmes environ sont concernées. Des chiffres vieux de 10 ans, trop anciens et pas assez précis pour les associations qui attendent beaucoup de ce plan. Suzanne Chojaï.
En France, les trois régions les plus touchées sont l'Île-de-France, la Normandie et la région Sud-PACA. Dans tout le pays, 7300 enfants sont placés sous la protection de l'État parce qu'elles risquent de se faire exciser si elles retournent dans leur pays d'origine, notamment le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le plan prévoit de signaler systématiquement les personnes mutilées dans les maternités lorsqu'elles accouchent. Il doit permettre aussi de cibler les établissements scolaires où les filles stoppent leur scolarité, notamment à la approche de l'été, rappelle Juliette Vogt, porte-parole de l'association Excision Parlons-en.
Puisqu'en France, aujourd'hui, ce sont les filles entre 12 et 18 ans qui risquent d'être excisées, donc au moment d'un voyage dans le pays d'origine des parents, au cours des vacances scolaires d'été. Sur 10 femmes qui ont été excisées aujourd'hui, il y a 3 de leurs filles en fait qui sont encore à risque.
Le dispositif doit relier les différents acteurs locaux, le préfet, l'agence régionale de santé, le rectorat, le procureur de la République, les associations locales. La ville du Havre doit tester le partenariat. Donc la lutte contre l'excision devient une priorité et Isabelle Gillette-Faye s'en réjouit. C'est la directrice du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
Quand une association va vers les collectivités territoriales ou les collectivités locales ou les services déconcentrés de l'État, s'ils peuvent nous donner du temps, ils nous le donnent. Si c'est pas dans leur feuille de route, ils vont pas le faire obligatoirement. Là, à partir du moment où la ministre leur dit « ça fait partie de vos obligations », ça nous donne un poids supplémentaire et donc on peut toucher un public beaucoup plus important.
Et on rappelle qu'une femme mutilée peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans. L'auteur de l'excision et le responsable de l'enfant risquent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Suzanne Chaudjahi. À Belfort, toute une région est derrière les salariés de General Electric. Appel des syndicats et des élus à une manifestation de soutien cet après-midi pour la sauvegarde de l'emploi. Le groupe américain veut supprimer 1044 postes en France, la quasi-totalité sur le site de Belfort. Le plan social de General Electric qui a été bien lancé par la direction hier. Plusieurs centaines de salariés ont bloqué cette réunion. Un face-à-face tendu, voici la Guitoune.
Dans le hall de l'immeuble, le directeur Antoine Perratou, habillé en costume cravate, affronte le regard d'environ 600 salariés qui sifflent, crient, insultent parfois même. La salle où doit se tenir le plan de sauvegarde de l'emploi est bloquée par un grillage. La direction, cachée derrière une barrière, dit prendre acte du blocage, se retourne et se dirige vers la sortie. La queue entre les jambes plaisante à un salarié, Hubert, 15 ans de métier comme soudeur.
On dit qu'on va être dans la merde, qu'on ne pourra pas payer l'étude des enfants, qu'il faudra vendre la maison. Enfin, je ne veux pas verser une larme, mais c'est terriblement chiant.
Oui, on va résister, oui,
en essayant de les attraper à la gorge.
La réunion est donc reportée sous les applaudissements, mais la direction, elle, a tout de même lancé le processus seul de son côté. Alexis Esma est représentant sud chez GE.
C'est un passage en force. C'est une direction qui a deux visages, je ne vais pas dire schizophrène. D'un côté, elle prétend vouloir un dialogue serein et constructif. Et de l'autre, elle ne met rien en place pour que le dialogue ait lieu. Rappelons que ça fait plus de 9 mois que nous essayons de dialoguer, de construire un projet. La direction s'est communiquée, mais construire un projet, elle vient encore une fois nous démontrer que ce n'était pas possible.
La prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine. Les syndicats annoncent déjà qu'ils n'y siégeront pas.
Et 4 à 5 000 personnes sont attendues à 14h à Belfort pour ce rassemblement de soutien. Après plusieurs jours de tensions entre Téhéran et Washington, ce drone américain abattu par Téhéran jeudi ou encore les attaques en mer de 2 pétroliers en mer d'Oman le 13 juin, Donald Trump s'est dit cette nuit sur la chaîne NBC prêt à parler aux 2 plus hauts responsables iraniens, l'ayatollah Khamenei et le président Rouhani, je cite, sans condition préalable. Le président des États-Unis qui a aussi affirmé hier avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain. La pression retombe donc, ce qui est également dans l'intérêt évidemment de plusieurs puissances. C'est ce que dit Clément Terme, chercheur pour le bureau au Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques de Londres.
Pour les puissances qui peuvent limiter le risque de guerre, je pense aux pays arabes du Golfe Persique. Donc par exemple, les Émirats Arabes Unis n'ont pas intérêt à une guerre entre l'Iran et les États-Unis qui, bien sûr, auraient des conséquences à l'échelle régionale. Donc ça, ce sont des pays qui étaient partisans d'une ligne dure. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que le risque de guerre fait peser un risque pour la prospérité économique du Golfe Persique et que la menace principale n'est peut-être plus aujourd'hui celle du réseau d'influence de l'Iran dans la région, mais le risque d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ensuite, il y a la Russie et la Chine également qui peuvent jouer un rôle, puisque ce sont des grandes puissances qui peuvent permettre aussi une respiration économique à la République islamique d'Iran. Donc il faudra voir si ces puissances prennent le risque d'une opposition plus ferme face à l'administration Trump dans la perspective de la peur d'une guerre. Et c'est vrai que cette peur d'une guerre, cette perception du risque militaire peut changer le calcul à la fois des Russes, des Chinois, mais aussi des pays de la région.
Dans l'immédiat, y a-t-il un risque véritablement, selon vous ?
Il n'y a pas, à mon sens, un risque imminent de guerre ouverte entre les deux États, parce que à la fois le président Trump ne le souhaite pas pour garantir sa réélection, et le guide suprême Ali Khamenei ne le souhaite pas pour garantir la survie du régime. Donc les deux plus hautes autorités des États n'ont pas intérêt à un conflit imminent, mais ils pourraient se laisser entraîner dans un conflit à partir d'une confrontation militaire au niveau local, que ce soit en Irak, dans le détroit d'Ormuz ou dans la mer d'Oman.
Et Clément Terme, chercheur pour le bureau Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques de Londres. Il était l'invité du journal de 22h de Mathieu Laurent. Donald Trump, qui par ailleurs doit faire face à cette nouvelle accusation d'agression sexuelle. Cette fois, c'est une journaliste éditorialiste au magazine Elle qui accuse le président américain de s'être jeté sur elle dans les salons d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. C'était, dit-elle, au milieu des années 90. Elle livre son témoignage dans un livre à paraître et en une du New York Magazine, Grégory Phillips.
À la une du New York Magazine, une photo d'Eugene Carroll en pied, vêtue d'un manteau et de collants noirs. Et ce titre, « Voici comment j'étais habillé il y a 23 ans quand Donald Trump m'a agressé dans une cabine d'essayage du magasin Bergdorf Goodman ». Dans cet article, la journaliste raconte cette scène de 1995 ou 96. Elle ne se souvient plus très bien, où le promoteur immobilier qu'elle connaissait l'accompagne dans cette cabine d'essayage. Elle prend cela pour un jeu, puis dit-elle, il la plaque contre la paroi, l'embrasse de force, se déshabille et finit par la violer. Eugene Carroll explique ne pas avoir porté plainte à l'époque, par peur des représailles. Au total, une quinzaine de femmes ont déclaré publiquement avoir été agressées sexuellement par Donald Trump avant qu'il soit président. Celui-ci a toujours nié. La Maison-Blanche affirme que cette histoire vieille d'un quart de siècle est totalement inventée et qu'elle a été créée de toutes pièces pour nuire au président. Et dans un communiqué publié tard hier soir, Donald Trump écrit qu'il n'a jamais rencontré cette femme et que le livre qu'elle s'apprête à publier doit être classé dans la catégorie des fictions.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. L'ancien et l'actuel chef de la diplomatie britannique Boris Johnson et Jeremy Hunt s'affrontent ce soir devant des militants conservateurs réunis à Birmingham, début d'une lutte pour le pouvoir, premier d'une série de 16 débats organisés dans tout le pays. L'événement se tient à la veille du 3e anniversaire du référendum sur le Brexit qui reste le grand sujet auquel devra s'attaquer le futur Premier ministre.
Une mission de médiation au Venezuela pour l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, désormais haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, appelle à libérer tous les opposants emprisonnés. Elle va nommer des délégués pour surveiller la situation des droits humains.
Nicolas Maduro, qui l'a reçu, affirme qu'il va examiner sérieusement toutes ses recommandations. Mais les partisans de l'opposition ont voulu lui faire entendre leur voix hier. Ils se sont réunis à Caracas devant le siège du programme des Nations Unies pour le développement. Reportage sur place de notre correspondant Benjamin Delisle.
Après plus d'un mois sans manifestation, ils sont quelques centaines à avoir ressorti les casquettes et les drapeaux tricolores. Au milieu des slogans habituels de l'opposition, un nouveau venu préparé spécialement pour Michel Bachelet. Il compare Maduro à Pinochet, dont la police politique avait torturé l'ex-présidente du Chili dans les années 70. Gloria, 46 ans.
C'est pour montrer que Nicolas Maduro est aussi un dictateur comme l'a été Pinochet. Nous sommes en train de souffrir comme elle a souffert. Ici, être prisonnier, ça implique de se faire torturer. Ce n'est plus un combat de droite ou de gauche, c'est la démocratie contre la dictature.
Les manifestants se réjouissent que la représentante onusienne ait pu discuter avec Juan Guaido et des ONG qui défendent les droits de l'homme. Osvaldo regrette simplement que sa visite ne lui ait pas permis de sortir de la capitale.
Le gouvernement est très stratège. Ici à Caracas, malgré toute la détresse que l'on observe, on vit comme des privilégiés. Mais dès qu'on sort dans le reste du pays, il n'y a plus d'essence, plus d'électricité, de la dénutrition. Voici ce qui se vit réellement dans ce pays.
Francisco est plus optimiste. Selon lui, quoi que disent les autorités, impossible de ne pas constater l'état déliquescent de son pays.
La crise est palpable. C'est devenu une réalité palpable, même dans les endroits manipulés par le régime où il y a un semblant de prospérité. Je pense qu'elle s'en va avec une image réelle de ce qui se passe dans notre pays.
Tous attendent le rapport de Michel Bachelet avec impatience. Ils espèrent pouvoir l'utiliser comme un argument supplémentaire pour pousser Nicolas Maduro hors du pouvoir.
Benjamin Delisle, correspondant de France Culture au Venezuela. On vote ce samedi en Mauritanie. Plus d'1,5 million d'électeurs attendus aux urnes pour désigner le successeur du président. Cet ancien général arrivé au pouvoir après un coup d'État en 2008 et qui a fait reculer la liberté d'expression dans le pays. Selon le rapport annuel de Reporters sans frontières, la République islamique a perdu 22 places en un an et 94e en termes de liberté de la presse. À Nouakchott, Edouard Dropsy.
Dans son grand boubou bleu, Abderrahman Ouedadi est assis confortablement, chez lui. Il y a encore 3 semaines, il était en prison. Son crime ? Avoir relayé des informations de la presse arabophone portant sur le gel d'avoir du président mauritanien, Mohamed Abdelaziz.
Pour le moment, je ne suis qu'en liberté provisoire. Ils peuvent me remettre en prison à tout moment.
Mais il y a un autre cas qui fait scandale en Mauritanie, celui de Mohamed Cheikh Mkhaitir, condamné à mort pour apostasie. Sa peine a été ramenée à 2 ans de prison, qu'il a purgé. Mais aujourd'hui, il est toujours maintenu en détention, pour sa propre sécurité, selon les autorités. Son avocate, la défenseuse des droits de l'homme, Fatima Tambay, dénonce ces conditions.
Malheureusement, il n'est pas en détention, disons, régulière, parce qu'il n'est pas dans une prison régulièrement connue et répertoriée par l'État, mais plutôt dans un endroit où, qu'on appelle une rétention administrative, même s'il y a eu certains qui ont réussi à le visiter après des Salam Alek, pour parler avec l'État mauritanien. Nous, avocats, on ne nous a pas permis de le visiter.
Ces dernières années, selon Reporters sans frontières, 5 médias indépendants ont été fermés en Mauritanie.
Reportage d'Edouard Dropsy. Le temps d'aujourd'hui est marqué par une amélioration progressive par l'ouest. Une météo encore instable avec quelques averses à l'est et au sud-est du pays. Ce matin, les températures grimpent jusqu'à 21 degrés.